Donc nous sommes dans Sanhedrin Samech Dalet Amud Aleph. Juste avant de commencer, comme le disait Dr Elbaz, concernant le Yéayam, dont je n'avais plus le nom hier, alors, j'ai re-regardé, c'est bien le rabbin, le maguide de Slonim en question, qui s'appelait Rav Yehuda Eidl, Rabbi Daleib Eidl. Voilà, c'était un élève du Gaon de Vilna, né en 1757, mort en 1828. Zéhouzé. Ceci étant dit, nous pouvons y aller. Eidel, son nom de famille, Ayn Dalet Lamed, Eidel, c'est écrit dans certains de ses sfarim, ça a été imprimé avec deux petits traits qui indiquent les Rachei Tevot. C'est qu'en fait, c'est pas un nom, c'est des Rachei Tevot d'un nom. C'est quoi les Rachei Tevot? C'est les initiales de quoi ce Eidel? Ayn Dalet Lamed, en fait, c'est un abrégé de Adlamaor. Son nom de famille, c'est Adlamaor. Ça veut dire quoi, Adlamaor? C'est qu'il remonte en Yichus jusqu'au Baalamaor, jusqu'au Maor. Qui est le Maor? Rabbi Zerachia Hallevi, que nous avons déjà cité quelquefois, le Baalamaor. Voilà, donc c'est certaines familles ashkenazes, notamment, qui étaient descendantes de ce Baalamaor, Rabbi Zerachia Hallevi, bien que lui était totalement sfarad, bien évidemment. Donc ceux qui avaient leur Yichus jusqu'au Baalamaor, certains se sont fait appeler Eidel, d'autres s'appelaient autrement. Il y avait des Epstein aussi, il y avait toutes sortes de noms. Mais Eidel, c'était donc son nom à lui. Alors, nous sommes donc toujours dans Sanhedrin Samech Dalet Amoud Aleph. Je reprends la Gemara au Tashma. Tashma vaizaku bekol gadol el Hashem Elokeihem. Mai amour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amar Rabbi Yehuda veiteima Rabbi Yonasan, bye bye, boy boy, etc. Haynu de achreve le beit, c'est lui qui c'est lui. Le Yetzerara de achreve le beit qui a détruit la maison de Dieu, vekaliel le hechala qui a brûlé le hechal, vekatlinu le tzadikim qui a tué les tzadikim, qui a entraîné la mort des tzadikim, ça veut dire. Veaglinu le Israël qui a exilé les Juifs me'arayu de leur terre, veadainu meraket beinan, il est toujours là en train de danser parmi nous, de nous narguer. Ce fameux Yetzerara. Klum yahavtelan, n'est-ce pas, tu nous l'as donné seulement pour toi Dieu, tu nous l'as donné ce Yetzerara, Ella. Les Kaboul et B. Agra. La seule raison, c'est pour recevoir par lui du salaire, le salaire quand on lutte contre lui. Lo iou Beinan velo agré Beinan. Ni lui nous n'avons besoin, ni de son salaire nous avons besoin. On n'en veut pas. Bekitsur, garde le ton Yetzerara, on n'arrive pas à lutter. Donc ça, c'était la preuve de l'Agmara pour indiquer qu'il y avait bien un Yetzerara spécifique à la Avodazara. Là-dessus répond l'Agmara, batarde avikoube. Qu'en effet, au départ, il n'y a pas de Yetzerara spécifique à la Avodazara chez les Juifs, c'est seulement Yetzerara de Harayot, mais une fois qu'il s'attache à la Avodazara. Alors, Bémet, tiens, il y a un Yetzerara spécifique de Avodazara. Point. Yatvutla, alors Gmara, c'est déjà raconte l'histoire. Yatvutla ta yome beta anita. Tlata yoma, c'est écrit ici, je pense qu'il faut corriger yome. Vous avez une correction dans vos Gmarotes? Comment? Yomei. J'ai pas compris. Avec un yud à la fin? Dans la Gmara elle-même? Waouh! Comment? Non? C'est quel Gmara ça?
Marek.
Gmara Marek, d'accord, mais sur l'éditeur, c'est quoi?
Aussi,
ah, celui-là, d'accord, ok. Parce que c'est peut-être une précédente ou une plus ancienne, je ne sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que Yoma, c'est le singulier de jour. Yomei, avec un Yud, c'est le S du jour, c'est le pluriel. Donc Tlata Yoma, c'est pas possible, c'est Tlata Yomei. Ça arrive, parfois comme ça. Mais Kamouvan, il faut corriger Tlata Yomei. Donc Yadvut la Tayome Betahanita, ils ont fait 3 jours de Tahanit, les rabbins ont fait 3 jours de Tahanit, Baoura Hamei, ils ont demandé la miséricorde, à Dieu, ils ont dit please, please, annule-nous ce Yetzerara. Nafaleupitka Amerikia, un papier leur est tombé du ciel, de Havaktiv Ba Emet, dans lequel il était écrit Emet. Alors, je sais que c'est étrange, mais terminons d'abord ce qui est dit ici dans la Gemara avant d'en parler. Donc un papier est descendu, qui a été écrit Emet. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit à partir de la Shema Mina, comprends de là, apprends de là, entends de là. Chotamo, Shelakadosh Baruch Hu, Emet. le tampon, la signature de Dieu, c'est Emet. Voilà, parce qu'il a signé, il a donné son accord en fait. Les rabbins ont demandé à Dieu, please annule celui, etc. Et lui, il a envoyé son accord. Il a envoyé un papier tamponné. Sur le tampon, qu'est-ce qui est écrit? Emet, Aleph Mem Tav. C'est la signature de Dieu. Nafak Keguria. Alors comme Dieu a donné son accord, Nafak Keguria. Nafak est sorti Keguria comme un lion des Noura, comme un lion, un lionceau, un lion de Guria, c'est des petits lions, hein, des lionceaux. Comme un lionceau des Noura de feu, comme un petit lion de feu est sorti Mi Beit Kotchei Hakodashim. Du Kotchei HaKodashim, du Saint des Saints dans le Beth Amikdash. Amar lehu Navi le Israël, le prophète a dit aux Juifs, le prophète à l'époque, Zacharie, Zacharia a dit aux Juifs, Haïnu Yitzra de Avodazara, ce petit lionceau en feu qui sort du Beit Kotchei HaKodashim, c'est Yitzra de Avodazara. Ok, et donc c'est là qu'on voit qu'ils ont annulé le Yetzer Hara de Avodah Zara. C'est la Anshei Knesset Agdola qui ont réussi cet exploit. Dans la Gemara, dans Erchin Daf Lametbet Amudbet, il ressort que c'est Ezra qui a annulé le Yetzer Hara de Avodah Zara, mais Kamouvan, Ezra faisait partie des Anshei Knesset Agdola, bien entendu. C'était un rabbin de cette époque, c'était le grand rabbin de l'époque, c'était Ezra. Voilà, donc c'est la même chose, sauf que là-bas c'est attribué plus spécifiquement à Ezra. On peut dire Ezra, pour tous les rabbinim de l'époque, c'est Ezra le leader, on va dire. C'est sous Ezra que le Yetzer Hara de Avodah Zara a été annulé.
Là, quand les lions sont sortis, c'est
un lionceau, oui, alors
c'est Ezra, il est imagé comme un lion.
En effet. C'est qui symbolise, voilà, qui symbolise la force, qui symbolise la puissance, qu'on a du mal à lutter contre. Alors déjà, c'est quoi cette histoire de pétek, de papier qui tombe du ciel dans lequel il est écrit Emet? Si c'est Kepchuto, si c'est apprendre Kepchuto, mamash, qu'il y a un papier qui est tombé comme ça du ciel et il l'a attrapé, ils ont regardé les nouvelles, ah bah tiens, il y a marqué Emet, c'est super. Si c'est ça, mamash, Kepchuto, Asbe Emet, pourquoi ils l'ont pas gardé ce papier? Pourquoi ils l'ont pas encadré? Que ça, c'est la seule chose, que c'est le papier que le bon Dieu nous aurait envoyé. Il nous a jamais envoyé. Même la Torah, qui est la lettre de Dieu, il l'a fait écrire par Moïse. C'est pas Dieu qui a écrit la Torah, c'est Moïse qui a écrit la Torah. Il lui a dicté, il a dit écris-moi ça, écris-moi ça, d'accord, mais c'est pas lui qui a écrit. Ok, c'était pas un papier made in bon Dieu. C'était un papier, un parchemin que, fait par l'homme, un gvil fait par l'homme, et c'est Moïse qui a écrit, etc., etc. Même dans les Louchot, les premières Louchot, où c'est l'écriture de Dieu qui est loue, malgré tout, la pierre, c'était une pierre qui était là sur terre. C'est pas un truc qui est tombé, encore heureux, est tombé du ciel, ça aurait fait mal sur la tête. Mais on va dire, c'était pas un truc made in bon Dieu. C'est pas fabriqué dans le ciel. Ok, c'était quand même un truc sur terre, soit une pierre qui était déjà là, soit etc., soit un papier, un parchemin, etc., qui était déjà là, etc., etc. Et Dieu a dit, t'écris ça, ou Dieu a écrit ça, etc. Mais c'est pas un truc qui est complètement tombé du ciel. Là, ce pétec, ça serait quelque chose d'inouï. Nulle part ailleurs on aurait vu ça. Pourquoi il n'aurait pas gardé ce papier?
On a vu des grillades tomber du ciel.
Des grillades, pas vraiment. Des cailles, si déjà.
Non, il y a eu des grillades.
Mais ça, on peut expliquer pourquoi on ne les a pas gardées.
On l'avait vu.
C'est pas des grillades, c'est vrai qu'ils étaient. Ayut Solinlo, d'accord, ouais. Les grillades. Mais là-bas, Hagoufa, pourquoi ça n'a pas été gardé? Parce que ça se mange, ça va s'abîmer. Mais le papier, un papier écrit par. Ne serait-ce que pour analyser par graphologie l'écriture de Dieu. Hein, faire la psychanalyse de Dieu, comme il dit l'autre. Comment? Ah, et le Sefer Torah de Moïse qui a été gardé précieusement, non? Et les Chivrei Iluchot, Aaron. Les tables de la loi et même les tables brisées de la loi, ils ont gardé dans le Aaron. La manne, on a aussi gardé un petit bout juste pour ça, etc., pour voir ce qui se passe. Mais ça se mange, ça s'est mangé, mais ils ont quand même gardé un, justement pour montrer. Très bonne remarque, voilà, ils l'ont gardé, mamache, pour montrer. Encore le Sefer Torah, ils l'ont gardé pourquoi? Pour comparer. À quoi il sert le Sefer Torah dans la rote? Pour comparer. T'as un doute un jour, tu compares. D'où la nécessité, la rote. Et d'ailleurs, quand on l'a perdu après la galoute, les Romains nous l'ont piqué, etc., avec le Aaron, on n'avait plus le Sefer Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à peine 70 ans après? À peine 70 ans après, Ezra s'est retrouvé avec trois versions différentes du Sefer Torah. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait plus le Sefer Torah de Moshe pour vérifier. C'est sûr que si on n'a plus de moyens de vérifier, on n'a plus l'étalon, enfin le truc de base, comment on va vérifier? Il faut un patron. Comment ? Non, non, parce que les trois sifra Torah étaient très ressemblantes. C'est les différences, c'est sur des petits diyukim, une petite lettre en plus, un chasser, un yatir, comme on avait dit hier, etc. Heureusement, les mitzvot restent les mêmes, soyons rassurés. Mais voilà, et donc Ezra a fait ce tri. Il a pris les trois trucs, etc. Quand il y avait deux pareils, un pareil, il a fait d'après le rov roulé. Et depuis, on a essayé tant bien que mal de garder ce Sefer Torah. Ça fait 2500 ans. Sefer Torah d'Ezra. Et bon, Hachem, on l'a mieux gardé cette fois-ci. Il y a un petit doute, on va dire. Il y a une lettre douteuse. Et il y a quelques petits espacements douteux aussi. Hein, vous savez, il y a peut-être soit Daka avec un Aleph ou avec un Hé. On s'est rendu compte que les Sfaradim avaient un Hé, Ashkenazim avait un Aleph. Quand on s'est rencontrés après des années de séparation Sfaradim-Ashkenazim, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit switch. Sur le mot Daka, est-ce qu'il termine par Dalet Kaf Aleph ou Dalet Kaf Hé? Et donc les Sfaradim Ashkenazim n'ont pas le même Sefer Torah. Et ça ne change rien au niveau du Pshat, change rien au niveau du Drash, il n'y a aucune Nafkamina, si ce n'est comment on écrit. Il faut savoir comment on écrit le Sefer Torah. Voilà, mais on n'a pas le même Sefer Torah, d'où à une certaine époque, certaines névroses, est-ce qu'un Sfarad peut monter, c'est un Sefer Torah Ashkenaz, est-ce qu'un Ashkenaz peut monter un Sefer Torah Sfarad, etc., etc. Voilà, à la fin, c'est que oui, don't worry, à Falpi, il y a toujours certains qui disent non, mais bon, on peut zémoutard. Et faire la bracha et tout, voilà, c'est une petite différence. À part ça, dans le Sefer Torah des Yéménites, il y a encore des petites différences. Il y a aussi une différence qu'il y a d'Al-Keska, est-ce que c'est en deux mots ou qu'est-ce qu'il y a en un mot, etc. Est-ce qu'il y a un espacement ou pas? Bref, des petits chiloukins comme ça, mais Baruch Hashem, grosso modo, la Torah, c'est texto, à part cet exemple de une lettre qui diffère, à la lettre près, c'est clean, nickel, tranquille. Et au niveau du pshat, c'est 100%, on sait, connaît les mitzvot de la Torah, il n'y a aucun safek, etc., tout va bien, Baruch Hashem. Mais on l'a échappé belle. Comment ? Pour les gématriotes, c'est pas top, pour les codes dans la Torah, c'est la cata, etc., etc., c'est vrai. Ouais. Et comme on l'a dit déjà dans la Gemara Kiddushin d'Aflam, que M. Kurel avait mentionné hier, il est écrit qu'on n'est pas baki dans les chaserot veyeterot. Donc ça veut dire que toutes les histoires des cheshbon, les codes dans la Torah, tous les calculs, c'est du, c'est du violon tout ça. Comment ?
On a, vous avez dit qu'on a celui d'Ezra.
Oui, mais celui d'Ezra, on n'est pas baki des chaserot veyeterot de Ezra. Puisque ça, c'est Abayé et Rav Yosef qui parle dans la Gemara Kiddushin. C'est bien, bien, bien après Ezra. Ezra, c'était avant les Tanaïm. C'est Anshe Knesset Agdola.
D'accord.
Donc il a écrit sur Torah. Et il me colzait, on n'avait pas de Bekiyut après dans Haserot et Eterot à l'époque de Abayé. Et oui, qu'est-ce qu'il y a ? On a vu que quoi ? Ah, en bas, là-bas, quand on parle du Ktav, on avait encore autre chose. Là-bas, pas sur le. On a vu est-ce qu'ils avaient été écrits en Ktav Ivri ou en Ktav Ashuri. Et la langue, etc. Alors. Oh, bonne remarque. Bonne remarque. Alors, on va en parler. On l'a pas. On a une histoire qui dit qu'il y a un pétek aussi par rapport à Baruch Shama. J'y arrive. Avant ça, d'abord, je parlais de la Gemara. Il y a d'autres, en fait, des ptakim. Vous savez quoi? On va parler des ptakim qui existent. Oh là, alors, on va parler longuement, si c'est comme ça. Bon, alors, séance pétek. D'abord, on parle de la Gemara, ok? Dans la Gemara, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un papier donc, qui est tombé du ciel. Je dis, si c'était réellement un papier qui est tombé du ciel, écrit par la main de Dieu Mamash. Ouais, rien que l'expression la main de Dieu Mamash, c'est déjà une apicorsoute. C'est une kfira, il n'a pas de main, le bon Dieu. Quand on dit Yad Hashem, Ayad Hashem Tiktar, Beyad Chazaka, etc., dit le Rambam, c'est une image, Chazve Shalom, de comprendre ça, Kepshuto. Voilà. Donc, il faut bien savoir que c'est une image. Donc, quand je dis c'est écrit par la main de Dieu, Kamouvan, c'est aussi une image, c'est pas Kepshuto. Alors, si c'est Mamash, un papier qui est tombé du ciel, Peshuto Kemashmao, pourquoi ils l'ont pas gardé? Et au moins garde au moins comme le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et comme les Shivrei Ilurot, etc., etc., etc. Non, on a dit qu'on l'a plus.
Le Romain, ils l'ont pas gardé.
Ah, ça on ne sait pas. S'il faut aller visiter les caves du Vatican, c'est pas accessible. Beaucoup disent qu'il y a des kélims du Beth Amikdash dans les réserves du Vatican. On sait qu'au Vatican, ils ont plein de choses, parce que c'est des voleurs depuis des siècles et des siècles. Ils ont volé pendant un millénaire, grosso modo, hein, même plus. Ils ont spolié, volé, tué, massacré des gens, voilà. Et le coffre, c'était au Vatican. Et ils ont caché là-bas. C'est pour ça qu'il y a plein de sfarim au Vatican. C'est qu'il y a plein de sfarim en hébreu. Il y a des girsaot du chat Sirushalmi qui n'existent nulle part ailleurs. Il y a plein de trucs qu'on retrouve au Vatican. Aujourd'hui, on sait quelques petites choses, mais on ne sait pas tout. Certains disent qu'il y a aussi une espèce de sha'ar qui avait à Yerushalayim où il y a écrit le Shema Israël, Hashem, le Kenosh, Hashem, Echad. Certains disent qu'il y a ci, il y a ça.
on ne sait pas, il laisse rentrer personne là-bas, ceux qui rentrent c'est des gens 100% knouïm la haine, donc on ne peut pas savoir, mais Hershéi lié, beaucoup pensent, à cause de la Gemara, dans Souka d'Afrée, etc., qui dit que les Romains ont piqué les Kélim, qu'il y a un rabbin qui était à Rome et qui a vu la Ménorah, vechoulé, donc on sait qu'ils ont pris les Kélim, hein. Vous savez, comme sur l'arc de Titus, où on voit la fresque, là, vous voyez de quoi je parle, là où il y a la fresque, etc., cette gravure, elle a été faite à peu près un an, ou au pire, 10 ans, entre 1 et 10 ans après Khorban Beit HaMikdash. Au plus tard, elle date de l'an 80. Donc c'est fort probablement un type qui a été témoin oculaire de l'arrivée des troupes de Titus. Donc quand on voit là-bas les juifs enchaînés, etc., qui viennent en tant qu'esclaves, ben merde, c'est des petits juifs qui étaient là. Si quelqu'un veut essayer de reconnaître son grand-père là-bas, il faut aller regarder ça en Italie. Voilà. Et là-bas, on voit bien qu'ils ont la menorah, ils ont ci, ils ont ça, les chatzot serot, verroulé. D'ailleurs, beaucoup râlent sur la menorah parce que le Rambam, il dessine la menorah droite comme ça, alors que là, elle est arrondie. Hershéi, elle honora. Oui, comment ?
Non, il n'y a jamais eu de demande officielle de...
Si, si, il y a déjà eu. Oui. De la part de l'État d'Israël, ouais. C'est resté lettre morte, me semble-t-il. Pétek mort, c'est resté. Ça résout beaucoup de problèmes, beaucoup de doutes, on va dire. Ah oui, bien sûr. Mais si c'est ça, faisons déjà la demande au Vatican de restituer les livres volés, parce qu'on a des Yerushalmi, etc. C'est pas un petit curé de chez eux qui l'a écrit. C'était un rabbin qui s'est fait voler, tuer, découper, brûler vif, et ils ont piqué ses bouquins. On peut aussi demander, si déjà tant qu'à faire, à la Bibliothèque Royale, enfin à la Bibliothèque Nationale aujourd'hui, ex-royale, dans laquelle il y a des milliers de livres en hébreu, aujourd'hui à Paris. Qui ont été volés des juifs, des juifs qui se sont fait expulser en 1306, en 1394. Chaque expulsion, ils piquaient les bouquins parce que l'île c'est une grande valeur et ils ont interdit, sans parler des bouquins qu'ils ont brûlés. Hershéi, il y a plein de sfarim. C'est pas chouette que c'est pas un goy qui a écrit ces sfarim, Makara, c'est des voleurs. Alors pourquoi ils vont pas restituer, en faire une bibliothèque juive, rendez ça à l'Alliance, je sais pas si on peut dire que l'Alliance c'est une bonne adresse, mais bon, rendez ça, en faire une bibliothèque juive qui appartient aux juifs. Aleph, voilà, donnez tout à Aleph, zut.
On aurait le droit de. S'ils autorisaient à aller juste voilà, visiter une délégation israélienne.
Il y a déjà eu. Mais ils ne laissent pas entrer partout. Il y a déjà eu, ils ont vu une partie, c'est comme ça qu'on sait qu'elle se chasse.
Puis à la fin, on aurait le droit d'aller.
Ça dépend où. Par rapport à la menorah, par rapport à la Avodah Zarah qui est là-bas.
Un keli de.
Du Beit HaMikdash.
Voilà. On aurait le droit de le.
Oui.
Rabbi Menaché l'avait dit, ils sont devenus fous, ils ne voulaient pas rentrer, c'est dangereux, il ne faut pas regarder.
C'est autre chose. Moi, je parle de la halakha, de la religion juive. Religion juive, il n'y a pas d'interdit. Il y a un problème de touma, on va dire. Au pire, si je le touche, parce qu'il y a marloket rambam ravat, si je suis mosif toumal, toumato, parce qu'il a déjà été impurifié. Mais tant qu'il n'y a pas de toumat ohalim, sans que je touche, parce que je ne suis pas mort, tant que je suis vivant, je ne suis pas métamé beoé, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème. Mais pas un problème de voir la menorah. La toucher, peut-être on peut commencer à chipoter, etc. Mais la voir, bien. Si on peut la voir et faire une photo, je vous dis pas qu'est-ce que ça va éclairer beaucoup de choses, hein. Ça va enlever beaucoup de sphécotes. Et Marlokot Rishonim sur ci, sur ça, sur plein de trucs. Hershéi, même sur la taille, on pourra mesurer les tfachim. Quand on ne sait pas c'est quoi aujourd'hui, on sait qu'elle fait 18 tfachim, 1m80. C'est quoi 18 tfachim, 1m80 ou c'est, on pourra mesurer plus précisément parce qu'il y a de Marlokot. Est-ce qu'un tfach c'est 9,6 cm ou 8 cm ou 8,4 bon. Ou ci ou ça ou ça. Bref.
Allez,
on essaye. Bonjour. Alors, ça viendra un jour, Krabotai, ça viendra un jour. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils acceptent, mais ça viendra un jour, Bezrat Hakel. Alors, voilà, donc s'il s'agit vraiment d'un pétek, c'est vraiment bizarre d'avoir un machmafli. Je pensais pshat bagmara. Alors c'est un pshat qui pourra peut-être choquer certaines personnes. Mais je vous le dis, voilà, c'est pas obligé d'accepter ce pshat. Je vous dis un pshat, une lecture, on va dire. Si je ne dis pas ça pour vous choquer, je dis ça pour rassurer ceux qui sont choqués d'imaginer qu'il y a un papier qui soit tombé du ciel. On peut interpréter la Gemara comme ça, que peut-être, certes, un papier serait tombé du ciel avec du vent comme ça qui arrive, mais pas qu'il a été écrit par Dieu. Non, c'est un papier qui aurait été écrit par quelqu'un d'autre, ailleurs, en Italie ou en Israël, dans un autre truc. Il a écrit le mot Emet, il s'amusait, il voulait faire un tableau. Tout d'un coup, il y a eu un vent, on lui a piqué son papier, mon papier, et puis il s'est envolé. Il lui a couru après, il l'a raté, et le papier est arrivé, il est tombé juste chez la Cheikh Zayed de l'art. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ils savent bien que c'est pas Dieu qui l'a écrit, qui l'a déposé, sinon ils l'auraient gardé encadré. Mais ils ont dit, regarde, si le bon Dieu il a fait ça maintenant, pourquoi il pique un papier et met à quelqu'un et il nous l'envoie ici, Makara? C'est pas la main de Dieu ça? C'est pas un message du bon Dieu ça? Alors, ils ont dit, Zéakavana, ce qui n'a pas le pétec, un papier qui est tombé du ciel, Zéakavana, il est tombé du ciel, ça ne veut pas dire qu'il a été écrit par le ciel, ça veut dire qu'il nous est tombé du ciel, et ils ont vu en cela un siman, un hentek minashamayim, une sorte de confirmation du ciel. Pourquoi Dafka, le mot émet est arrivé? C'était une sorte de confirmation pour dire, ok, vos tfilotes ont été acceptées. Aval leolam, émet, ça a été écrit par un être humain, etc., etc., etc. Ça, c'est une première possibilité de lecture. En poussant un peu plus loin, on peut même dire encore plus, et dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un papier qui serait nécessairement tombé du ciel, mais envoyé par le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire un papier envoyé par le ciel? Ça peut même être un papier sur lequel il y avait écrit Emet, qui se trouvait dans les papiers du rabbin lui-même. Il avait des papiers rangés. Il y a un vieux papier qu'il a écrit il y a 30 ans, il avait écrit Emet pour s'amuser, je ne sais pas, écrit Emet. Et là, pitam, il retombe sur ce papier. Quand je dis il retombe sur ce papier, quel mot j'ai utilisé? Il retombe, vous croyez qu'il est tombé ma mâche? Si la Gemara avait écrit comme ça, il est tombé sur ce papier, viendrait un taré 2000 ans après, il dira, ça veut dire que le rav est tombé, boum, il s'est cogné. Non, c'est une expression. Voilà, ici aussi, quand on dit qu'un papier est tombé du ciel, tombé c'est une expression. Et donc il est tombé sur ce papier-là, il a compris que c'était un siman minashamaim, que Dieu lui a fait découvrir ce papier précisément pour cela. On pourrait aussi se demander pourquoi ils n'ont pas eu une batte-colle alors, ou une névoie. Il y avait des prophètes à l'époque. Alors pourquoi t'as besoin d'un papier envoyé par bon Dieu?
Justement, j'avais mentionné qu'il y a des gens qui disent que batte-colle, c'est pas dire une voix qui descend du ciel aussi, c'est quelqu'un se pose une question et il entend.
Ouais, est-ce qu'on avait parlé de ça? Sota, la première lettre est ok. Sanhedrin, bravo. Chazak. Du deuxième coup, presque. Sanhedrin Daf Yud Aleph. Oh, il a avoué le Tosfot. Sanhedrin Daf Yud Aleph avec le bat kol. On avait dit que tout d'abord il disait que bat kol, c'était quoi bat kol? Une fille de voix. C'était un écho. On entend comme un écho. On avait parlé là-bas des chitotes, de qu'est-ce que c'est que la bat kol virouler. D'accord. Monsieur Curé, il accomplit ce qu'on avait dit la dernière fois, qu'il faut avoir la mida de ne pas croire tout ce qu'on raconte. Et quand on dit c'est Daf Yud Aleph, faut vérifier si c'est Daf Yud Aleph ou pas. Parce que c'est pas l'histoire. Et alors, est-ce que le Tosfot est Daf Yud Aleph? On attend la confirmation. Yud Aleph. Oui. C'est bon. Alors il est là, ça va. Non, des fois qu'il aurait bougé, Aniloyed, ça arrive.
C'est quoi l'affaire?
Voilà. C'est ce qu'on appelle l'écho. Une voix qui sort d'une autre voix. Alors le Aemet, c'est que là, les interprétations que je vous donne, elles sont gentilles. Je vais vous parler d'autres interprétations, des Sfarim, pas de moi, qui vont plus loin que ça. Mais, c'est-à-dire qui vont plus loin que ça et qui rentrent dans cette idée de qu'est-ce que c'est que ce pétek, verrouler. Mais comme avant, on a dit qu'on allait parler des ptakim, alors je vous mentionne aussi qu'il y a un pétek dans le nar. Dans le nar, déjà, dans la Bible, déjà, on parle d'un pétek, d'un papier qui tombe du ciel, d'une lettre minashamaim. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la lettre minashamaim dans le nar? Et c'est un sefer qui est malheureusement pas beaucoup étudié, c'est dans Divrei Hayamim. S'il est à la fin de la Bible, alors les gens, ils n'ont pas les nerfs de lire jusque là-bas. Dans Divrei Hayamim Bet, le deuxième livre de Chronique 2, ou deux chroniques, on dit chez eux, dans le livre de Divrei Hayamim Chelek Bet, la deuxième partie, c'est Perek Rafalef, Pasuk Yud Bet. Yud Bet est suivant. Là-bas, il est écrit qu'il y a une lettre de Eliyahu Hanavi. Vous connaissez le Rav Dessler? Comment s'appelle son livre? Mirtav Meliaou. Pourquoi Mirtav Meliaou? C'est un pasouk, comme on l'a dit hier avec M. Lasri, souvent le nom des Sfarim, c'est des pesukim, nahon comme Iye Ayam. Que là aussi, c'est un pasouk, c'est même plusieurs pesukim. Où est-ce qu'il y a écrit Iye Ayam? Oui, il y a bien Omer aussi, nahon. Iye Ayam, c'est écrit où? Je ne sais plus. Dans Ishaya, mais c'est surtout dans. C'est, ah bon? Iye Ayam dans Bereshit? Ah bon? Je ne rappelle pas. Non, on va dans Esther, c'est classique, à la fin de Esther, n'est-ce pas, on dit qu'il a mis un impôt sur Iye Ayam, sur le pays, Iye Ayam. Mais sinon, il y a aussi dans Yeshaya, c'est écrit Iayam, j'en peux plus dans quel contexte, Ershéié. Voilà, ici aussi Mirtav, mais Eliaou, c'est un sefer pas que de Rav Dessler, hein, le Rav Reskiaou Medini aussi a écrit un shoot Mirtav, mais Eliaou, tu qui as écrit le Zdechemet, Vechoulé. Ah non, j'ai dit bêtises, c'est Mirtav, le Reskiaou là-bas. Je me suis embrouillé les pinceaux. Mais il y a d'autres livres qui s'appellent Mirtav, mais Eliaou, et le Rav Dessler, c'est un de ces livres-là. Et pourquoi le livre a été appelé comme ça? Ben, il a été appelé, comme le Rav Dessler s'appelait Eliaou, ils ont dit là, Mirtav, mais Eliaou, et c'est basé sur le Passouk. Alors ce Passouk, c'est une lettre de Eliaou à Navi, vraisemblablement écrite, du moins envoyée post-mortem, enfin si on peut parler de mortem, puisque Eliaou à Navi, post-Aliya, après qu'il soit monté au ciel, donc il n'est plus sur terre, donc c'est vraiment une lettre du ciel, et envoyée au roi Yehoram. Tous les commentateurs là-bas soulignent bien que c'était après la montée céleste de Eliaou, la montée au ciel de Eliaou. Et donc c'est embêtant, comment une lettre elle lui arrive du ciel. Makara, le pasuk dit Vayavo elav mirtav me Eliaou Hanavi, les morts, Kohamar, Hachem, etc., etc. Est venu au roi Yehoram une lettre de Eliaou Navi qui lui dit voilà, ainsi a parlé Dieu, papapi, papapa. Mais le maïs c'est dans le Radak, là-bas, dans le commentaire du rabbi David Kimri, dans le Radak, il écrit que ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire que Eliaou Hanavi, Nigla Beruach HaKodesh, Beruach HaNevoa, il s'est dévoilé par un vent de prophétie, il s'est dévoilé Beruach HaNevoa, les Echad Mina Neviim, à l'un des prophètes vivants de cette époque-là, Vesam Bepiv Divrei Hamirta Vazé. Et il a mis dans sa bouche les paroles de cette lettre-là, c'est-à-dire, Eliaou HaNavi s'est dévoilé par prophétie, Eliaou HaNavi vient dans le ciel, il s'est dévoilé par prophétie à un prophète qui était sur terre, vivant, etc. Il lui a donné ces mots-là, il lui a dit voilà le message, et il lui a demandé de l'écrire et de l'amener à Yehoram, de jouer le facteur. Veyomar lo sheze amirtav sholeach elav Eliaou. Et qu'il lui dise que c'est Eliaou qui envoie cette lettre. Donc Eliaou a dit au prophète, va voir Yehoram, écris ça, et donne ça donc en mon nom, moi Eliaou. Pourquoi dit le Radak? Pourquoi il lui dit de faire ça? Chez Yarchov Yehoram, chez Zea Mirtav, Balo Minashamaim, Veyachnia Levavo. Afin que Yehoram pense que cette lettre lui vient du ciel, et qu'il Shamachnia Levavo, qu'il incline son cœur, qu'il encaisse, qu'il accepte. Ça veut dire en fait que ce n'est pas une lettre qui a été écrite dans le ciel, selon le Radak. Ça a été écrit sur terre, par un monsieur sur terre, qui a vu par sa prophétie, donc il a écrit, il lui a donné, et il a fait gober à Yehoram que ça a été écrit, que c'est tombé du ciel, que c'est arrivé du ciel. Mais ce n'est pas vrai, dit le Radak. C'est intéressant parce qu'à ce compte-là, on voit ici un petit peu une source, l'Ira'ura a une notion, Rakira, est-ce qu'il convient ou pas de faire du chizouk avec du sheker? Est-ce qu'il est bien d'être mechazek les gens, d'amener à la teshuvah en utilisant des arguments mensongers? Par exemple, quelqu'un saurait pertinemment, on va dire un exemple au pif comme ça, puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, que les codes dans la Torah, ça ne tient pas la route, dans la mesure où on n'est pas baki vechaserot v'yeterot. Est-ce qu'il convient de faire du chizouk et d'encourager les gens à la Torah en leur montrant « Waouh, regarde les codes, ce qu'ils donnent, papapi, papapa ». Est-ce que c'est bien ou pas? Le tzad de dire c'est bien, bah oui, parce que le type va faire tchouva finalement, il va faire shabbat après. Ou bien, non, il ne faut pas utiliser du shaker pour ça. On fait avec les moyens du bord, on ne vole pas des moyens d'ailleurs. Hein, je pense que tout le monde serait d'accord qu'il est interdit de voler pour faire tchouva. On est d'accord là-dessus? J'ai pas le droit d'aller voler quelqu'un. Je me dis, si je, on va dire comme ça, je sais que si lui, il lit ce livre, il va faire tchouva. Je vole, j'y prête moi, non, je ne veux pas lui prêter, moi je lui vole. Je ne peux pas lui rendre, c'est fini, je lui vole. Et je le donne à l'autre. J'ai le droit ou pas? Non, c'est pas joli. Mais attends, après il va faire Shabbat. Oui, mais attends, il va faire Shabbat et toi t'as volé. C'est un Shabbat volé. Donc Zelomat im, Madin avec du Sheker. Est-ce qu'on peut faire Gnevat Da'at, le voler et le... Non, ça, monsieur Lasri, ça veut dire...
Mentir pour...
Non, Hasvechal, j'explique. Ça, c'est un truc qui m'est resté il y a une trentaine d'années. Rav Gedalia Nadel. Rav Gedalia Nadel, il était même mashmesh les svarot comme ça, il les palpait. Quand il disait quelque chose, il faisait comme ça. Depuis, ça m'est resté. Je ne sais pas pourquoi, même quand je ne suis pas en train de dire vraiment une svara. Oui, c'était quand c'est pas mal, quand c'était une svara délicate, il faisait comme ça, voilà.
Il n'y a pas un problème,
morale de l'arnaque.
Non, c'est pas ça. C'est que quelque chose, tout ce qui est matière est fini, donc elle est inscrite dans le temps, etc., etc. Sa mort est déjà programmée.
So.
Et si ça vient du ciel, de Nachamal, c'est...
Pour le papier, vous parlez. Oui, bien entendu, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que les personnes qui seraient choquées d'imaginer un papier qui vient du ciel, parce qu'en réalité, c'est un non-sens, un papier qui vient du ciel. Ça ne veut rien dire, un papier qui vient du ciel. Mais comme je sais que pas tout le monde partage cet avis, ou pas tout le monde... Voilà, donc je vous le dis en open. Celui qui comprend ou qui est dérangé, qui dit que c'est pas possible, qui dit que ça n'a pas de sens, c'est absurde, eh ben alors, voilà comment expliquer. Et c'est certainement ce qui a motivé le Radak aussi. Hein, quelque chose de matériel ne peut pas être indépendant du temps, et ne peut donc pas surgir de l'immatériel. C'est tout le problème de la bria ex nihilo, de la bria yesh me'ayin, que Dieu a créé à partir de rien. Ça veut dire qu'avant le monde, il n'y avait rien. C'est pas qu'il y avait le vide, il n'y avait pas la place non plus. L'espace n'existait pas, le concept de matière n'existait pas, le concept d'espace n'existait pas. Le concept de temps, par définition, n'existait pas non plus. Hein, c'est pour ça que le Midrash il dit que Bara Seder Zmanim, le Midrash d'un Bereshit Rabba dit que Dieu a créé le temps. C'est quoi le temps? Le temps, on va dire, c'est une convention. Oui, mais pouvoir imaginer cette idée de temps, ça n'est possible que dans la mesure où il y a de la matière. S'il n'y a pas de matière, ça n'a pas de sens. Je referme cette parenthèse, car ça n'est pas le sujet. En tout cas, voilà, d'après le Radak, il ressortirait qu'on peut faire un chizouk avec du shéker, et c'est fort étrange. Alors il est possible que parce qu'il s'agissait ici du roi Yehoram, et donc c'est pas que pour lui, c'est une personne de laquelle va dépendre tout le peuple, donc peut-être dans ce cas-là, oui. Mais théoriquement, c'est pas bien de faire du chizouk avec du shéker, c'est ma'arechet gdola sipurazé. Il y a un autre endroit où on voit un pétek, ça c'est une gmara. Il n'y a pas que la Gemara ici, dans Sanhedrin, on voit un pétek qui tombe du ciel, enfin Sanhedrin et Yoma Dav Samertet, car vous vous rappelez, on a dit que ces Gemaras sont Yoma aussi. Il y a une autre Gemara dans Baba Metsia Dav Peivav, qui parle d'un pétek, trois ptakim même, qui tombent du ciel. Pas Peivav, Pehi. Il y a trois papiers qui tombent du ciel là-bas. C'est au moment de la mort de Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani était... C'est pas Pehi, c'est Peivav. Pourquoi j'ai dit Pehi? Non, c'est Peivav Amud Aleph. Et c'est une grosse page. Il y a trois papiers qui tombent du ciel là-bas. Rabba Bar Nachmani était un petit peu, il était poursuivi par les autorités des Goyim, etc., etc. Hershéou, il s'est enfui. Hershéou, il est mort dans la fuite. Il voulait pas être attrapé par les Romains, mais il est mort, sauf Davar. Et on ne savait pas où était son corps, etc., etc. Et les rabbins sont partis à sa recherche. Il y a eu un pétek, donc un premier papier qui est tombé du ciel pour faire savoir qu'il était mort. Après, ils ont trouvé l'endroit pour l'enterrer, faire les espédim. Et là, hein, il y a eu un deuxième papier qui est tombé du ciel au bout de 3 jours et 3 nuits de espédim. Ça ne veut pas dire qu'ils ont parlé pendant 72 heures. Non, pendant 3 jours et pendant 3 nuits, ils ont fait des espédim. Certains la nuit, certains le jour, verroulé. Donc vraiment, ils ont fait gros espédim pendant 3 jours. Et là, un papier tombe du ciel et dit « Kola poresh yehe benidoui ». Celui qui quitte et qui dit « Bon, c'est là, on a fait 3 jours pour Rabat, ça suffit ». Il est venu douille, il sera mis en idouille, en quarantaine. C'est un rachat, ça ne suffit pas 3 jours pour Rabat. Alors ils sont restés encore et au bout de 7 jours de Hespédim, ils ont fait tous les Shiva'ah, là un papier est tombé du ciel et il disait « Les roux, les batechem, les shalom, vous pouvez rentrer chez vous les amis ». Donc on voit encore une fois des papiers qui sont tombés du ciel comme ici. Ma'apirush, ma'apshat. Alors là-bas il y a dans le commentaire du Maharal de Prague, vous connaissez le Maharal dans Chidushé Agadot. Il dit sur Baba Metzia, il dit « Ayedia, sheba pitom mina shomaim » une information comme ça qui vient du ciel. « Nigra nafal pitka merekia » Les rachamim ont appelé ça « un papier est tombé du ciel ». Mais il n'y a aucun papier qui est tombé de nulle part. Comme ça dit le Maharal. Il n'y a pas un papier qui tombe du ciel. C'est une façon de parler des rachamim. Il dit quand il y a une information, une yedia qu'ils considèrent venant du ciel, ils appellent ça un papier qui nous tombe du ciel. Mais il n'y a aucun papier. Ainsi dit le Maharal. Vous voyez, donc vous voyez, il y a pire que ce que je vous disais tout à l'heure. Le Maharal dit ça n'existe pas ces histoires-là des papiers qui tombent du ciel. C'est une façon de parler. Le Ben Yishraï, pas dans le Ben Yehoyada, mais dans le Ben Ayahu, le Ben Yishraï écrit que cette histoire de Pétek, c'est l'Av Dafka, un papier qui tombe du ciel. Il n'y a pas eu de papier qui est tombé du ciel. Mais c'est une manière de parler de Bat Kol. Il dit en fait, une Bat Kol c'est quoi? Pourquoi on appelle ça une Bat Kol? Une Bat Kol c'est une voix qu'on entend comme ça, mais seuls les Chachamim l'entendent. Il dit, le Pétek, c'est lorsque tout le monde l'entend. Tout le monde le comprend. Là, on appelle ça un pétèque qui est tombé du ciel. Pourquoi ? Parce qu'un pétèque, quand on affiche, on a écrit papier, c'est écrit, c'est affiché, c'est placardé, bah, tout le monde peut le voir, c'est officiel. Donc on appelle ça un pétèque. Mais ça veut dire que c'est une sorte de bas de colle, dit le Ben Ishraï. Il n'y a pas un papier qui est tombé du ciel. Sans quoi, il l'aurait gardé dans les archives, il l'aurait encadré, verroulé, il l'aurait mis je ne sais où, kamouvan, verroulé. Il y a encore dans le Pardes Rimonim, c'est encore avant cela, Pardes Rimonim c'est un Rishon de Rabbi Shem Tov Shafrut Ibn Shafrut, c'est un contemporain du Ritva, le Pardes Rimonim, il a écrit un sefer sur les Haggadot Me'od Me'anye, il écrit, c'est dans Daf Hei Amud Bet, du livre édition de Zitomir en 1866, il écrit que, il dit comme ça, Maïde Amar Denafal Pitka Merekia, ce qu'on dit dans la Gemara qu'un papier est tombé du ciel, Rotze Lomar Sheba Lehem Ma'amar Harav Agadol Shebahem. Et c'est une façon de parler qui veut dire que est venue à eux une parole du grand rave de la génération. Quand le grand rave a donné une hora'a, il a dit voilà comment on va faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ceci, voilà cela. Ce que le grand rave a dit, ils ont considéré comme un papier qui tombe du ciel. Première interprétation proposée par le Pardes Rimonim. Attention, seconde interprétation proposée par le Pardes Rimonim, ou bien, dit-il, on peut encore expliquer que tout ce qui est écrit dans la Gemara ici, ça s'est passé mais dans un rêve. C'était un chacham qui a rêvé de ça, qu'un papier est tombé, qu'il y a le petit lionceau qui est sorti du Beit Hamikdash, verroulé. Alors là-bas, il ne parle pas pour notre lionceau, il parle pour la Gemara dans Metzia, avec Rabba, et les trois papiers, etc. Dit tout ça, c'est un rêve. Mais je dis, on peut appliquer les mêmes réponses, celles du Maharal, celles du Pardes Rimonim, celles du Ben Ishraï. On peut les appliquer chez nous aussi, et dire la même chose, qu'il s'agirait soit d'un rêve, soit que c'est une façon de parler.
Qui aurait rêvé ?
L'un des rabbins, quel est le problème ? Comment ça ? Abayé aurait rêvé.
Non, parce que le pas de colle ou pétex, c'est plus de pitoune, quoi.
Un instant, quel était le premier pirouge du Pardes Rimonim ? Avec ces trois rabbins, j'ai donné quatre interprétations. Pardes Rimonim en a dit deux. Le premier, c'était quoi ? C'est qu'il y a la hora'a du grand rav. Le grand rav a donné une hora'a. Il a dit, les amis, comme ci, comme ça. Donc, c'est ça l'idée. Donc après aussi, c'est un seul et ça se diffuse. Pareil ici aussi, ça aurait été le rêve d'un rabbin. Vous savez, il y a des pirouchim comme ça, dans la Shita Mekoubetset, il ramène dans Balalop, Baba Metzia Dafnuntet, Shita Mekoubetset, il ramène au nom de Rabbeinu Hananel. Là, c'est un Rishon tout premier, à l'époque des Géonim quasiment. C'est un Gaon, on peut dire, Rabbeinu Hananel. Il ramène au nom de Rabbeinu Hananel que lorsqu'il est écrit dans la Gemara, dans Baba Metzia Dafnuntet, l'histoire avec Rabbi Eliezer et Chachamim, avec Amat Amaim qui est revenu en arrière, le caroubier qui s'est déplacé, les murs du Beit Midrash, etc., et dit que ça c'était un rêve. C'est un rabbin qui l'a rêvé, il a dit que c'est un message important, il était allé raconter au Beit Midrash, ils en ont parlé, ils l'ont analysé, etc. Pas un rêve de quelqu'un de débile qui pense à des débilités, alors c'est débile. Mais un rêve d'un rabbin qui colle coulo Torah, il a un sens, c'est Dvarim Chashuvim. Voilà, ça c'est un pirouche cité dans la Shita Mekoubetset au nom de Rabbeinu Hananel. Donc, Ershéou, ça arrive. Yesh Dvarim Kaelou. Emet, c'est que dans la Shita Mekoubetset, dans Baba Metzia aussi, là-bas, Daf Peivav, sur la Sugia qui est juste avant, sur la Nekuda qui est juste avant celle dont on parle de la mort de Rabba Bar Nachmani, juste avant ça, il est écrit là-bas dans la Gemara que Rabba Bar Nachmani a, on va dire, arbitré une marloquette entre, dans Yeshiva Shel Ma'ala, dans la Yeshiva Céleste. Le bon Dieu il disait ça, la Yeshiva il disait ça, et Rabba est venu arbitrer, dire toi un bon point, toi carton rouge, etc. Mazéa Davarazé. Alors, l'un des Pirushim cités là-bas dans Shemekou Betset, que c'était dans un rêve, tout ça. Voilà, Ershéou, donc cette idée existe, et on la retrouve donc là-bas. Donc chez nous aussi, on peut appliquer ces mêmes réponses, comment ? Alors, dans beaucoup Béhémètes de Haggadot, certains acharonim ont dit qu'il s'agit d'un rêve. Pas dans toutes, il ne faut pas appliquer ça bêtement. Mais non, là-bas, par exemple, ça n'a pas été appliqué. Mais c'est très simple, parce qu'on voit, on a des preuves dans la Gemara qu'il s'est passé quelque chose de réel. Il n'a pas voulu revenir l'année d'après, verrouler. C'est pas Matim, il parle de la Gemara dans Megillah d'Avzaïn Amoudbet. Et voilà, il y a beaucoup d'autres interprétations. Ça ne veut pas dire forcément qu'il l'a charté comme ça avec un couteau. Hein? Alors, le Meiri Sarté, il y a le Maharsha, Rasha, il y a beaucoup qui expliquent autrement. Il faut aller voir là-bas. Mais Ershéi, c'est pas dans un rêve. Donc on peut dire, dans toute Agada, on pourrait dire qu'il s'agit d'un rêve, mais évidemment, ça ne s'applique pas à tous les coups. Donc c'est peut-être pas à nous d'en décider. On va laisser les Mefarshim le faire. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de Agadot sur lesquelles les Mefarshim disent là, c'était un rêve, etc. Maintenant, on peut pas tout transformer comme ça avec un coup de baguette magique. Oh là, c'était un rêve, etc., etc. On commence comme ça, vous savez comment on finit. On finit dans les rêves. Voilà, exactement. Mais là où les Mefarshim l'ont dit, notamment le Ben Ishraï était très friand de cela. C'est pas contradictoire. Le Maharal de Prague aussi, c'était un kabbaliste. Faut pas croire que les kabbalistes, c'est uniquement le type d'énergumène un petit peu siphonné qu'on rencontre aujourd'hui qui se prétendent kabbalistes. Un kabbaliste, à l'origine, n'est pas supposé être un siphonné. C'est supposé être quelqu'un de normal, d'intelligent, de chacham, mais qui a une vraie réflexion. La Kabbalah, c'est une philosophie, c'est une compréhension du monde. C'est pas juste du blabla et des gématriotes et des jeux de lettres et des jeux de je sais pas quoi. Ça, c'est pour les siphonnés d'aujourd'hui qui jouent les kabbalistes. Un vrai kabbaliste, c'est pas ça. Vous pensez que le Maharal de Prague, il passait son temps à faire des gématriotes qui n'ont pas de sens? Non, le loi est chez l'autre. Et voilà. Ou bien qui faisait des trucs magiques et qui brûlait des papiers et qui sautait en l'air et qui, non, ma pitom, voilà pitom. Ma pitom, oui, mais je joue pas en l'air. Et même ça, BSM, c'est une grande légende, le Baourklad. Mais bon, je vais refermer la parenthèse. Ershéié, voilà, oui, le Ben Ishraï, c'était un grand kabbaliste, et pourtant, fréquemment dans les Haggadot, il refuse de les prendre Kepshutam, tout en étant kabbaliste. Et il interprète, souvent, il fait usage, il a recours à ce stratagème, il dit là, c'était un rêve, etc., etc. Notamment, le Ben Ishraï dit, sur l'histoire de Roni Amagel, puisqu'on l'a mentionné déjà hier, avant-hier, je ne sais plus, hein, dans la Gemara, dans Tanit Rav Gimel, on dit Roni Amagel, il a dormi 70 ans. D'accord ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai pas entendu.
On essaie la référence.
Ah, pardon ! Aïe, 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 c'est vrai que d'habitude, je demande quel daf c'est. Mechila, la prochaine fois, je demanderai. Comment ? Je n'entends pas.
Il y a deux dates qu'on parle de ça.
Où on parle du fait qu'il a dormi pendant 70 ans? Je n'entends pas bien.
Non, de Roni Amagel.
Ah, Roni Amagel, oui, il apparaît sur plus d'un daf, en effet. Et donc, quand on dit qu'il a dormi 70 ans, verroulé, le Ben Ishraï dit, c'était un rêve. C'est qu'en fait, il est rentré dans la grotte et il s'est endormi. Ça, c'est écrit dans la Gemara qu'il s'est endormi. Et après, il écrit dans la Gemara qu'après, il s'est endormi, il s'est réveillé, il est rentré dans la grotte pour manger son pain, etc. Et hop, il s'est endormi, dit la Gemara. Et il s'est réveillé 70 ans après, et dit le Ben Ishraï, ma kavana, il a rêvé qu'il se réveillait 70 ans après, mais ben, il s'est pas réveillé 70 ans après, il s'est réveillé 2 heures après. Il a rêvé qu'il s'est réveillé 2 heures après, qu'il rentrait chez lui, qu'on le reconnaissait pas, qu'il a vu son petit-fils qui était âgé maintenant, etc., 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 etc. Mais comme l'enseignement était intéressant, l'idée de Ochavruta, Omituta, etc., alors on l'a cité dans la Gemara. Ainsi dit le Ben Ishraï. Et donc il y a beaucoup de Gemarot où certains vont expliquer que c'est un rêve, etc. Beaucoup de Haggadot comme ça. À Valer Chéié, ici donc on a cette possibilité dans la Gemara, dans Metzia, Daf Pei Vav aussi, toutes ces quatre possibilités que nous pourrons aussi appliquer à la Gemara chez nous. C'est pour ça que je vous disais que mes deux interprétations à moi étaient encore légères par rapport à ce que disent les Mefarshim. Maintenant concernant le Baruch Sheamar dont a parlé Monsieur Lasri, que Baruch Sheamar aussi on dit que c'est un papier qui est tombé du ciel. Quel Daf c'est écrit ça, Monsieur Lasri? Parce qu'il a dit qu'il faut demander quel Daf. Où est-ce que c'est écrit que Baruch Sheamar, c'est un papier qui est tombé du ciel avec la prière de... Bon, vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Que Baruch Sheamar, ça a été envoyé du ciel. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Mais vous étiez où à l'école primaire? Je comprends pas.
Lycée Colbert.
Lycée Colbert? Ah oui, c'est pas... Ils sont pas à la page. Jules Ferry? Aïe, 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 aïe. Il est mort, lui, Jules Ferry. Comment? Colbert aussi. Pardon?
L'école des garçons Louis Blanc. Ensuite.
Ah.
Ensuite, l'école des filles.
Louis Blanc. Encore la cabotte. Je croyais que c'était Leblanc. On commence par Louis Blanc. L'histoire de Baruch Sheamar, non, c'est pas dans la Gemara. Bichlal, Baruch Sheamar n'apparaît pas dans le Talmud. Dans tout le Chas, on ne mentionne pas. Vous savez, dans Masechet Brachot, on mentionne plein de prières. Baruch Sheamar, il n'y a pas. On ne dit pas, voilà, on a été Medaken, Seno Sarla, etc., etc. C'est aussi une bizarrerie en soi. Le Baruch Sheamar, la source qui nous raconte que c'est tombé du ciel, c'est un Rishon, c'est Rabbeinu David Bar Yehuda Neched Aramban Nachmanid, dans un livre qui s'appelle Or Zarua. C'est pas le Or Zarua connu. Le Or Zarua connu, c'est Rabbi Yitzhak de Vienne. C'est pas dans le Or Zarua connu, c'est un autre sefer qui s'appelle Or Zarua, qui n'a pas été imprimé. Peut-être qu'il a été imprimé récemment, mais à ma connaissance, il n'est pas imprimé. C'est un Ctaviade en manuscrit. J'ai vu une photo du manuscrit. Peut-être qu'ils l'ont imprimé aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas en tout cas. Et... Le... Oui, bah oui. Ouais, laissez terminer. Comment ? C'est le honneur du mercredi qui revient sur mercredi. Ah, oui, oui, le calage du quart d'heure, ouais. Ouais. Manassé. Bon. Voilà, dans ce Sefer Or Zaroua, il écrit donc que c'est un pétek qui est tombé du ciel. Et Rabbi Meir Ibn Gabay aussi, lui aussi c'était un grand kabbaliste, dans son Tolaat Yaakov, il écrit la même chose. C'est Tolaat Yaakov dans l'édition de Zalkov de 1799, c'est Yudbet Amudbet. Il écrit aussi la même chose. On retrouve cette idée-là chez les Poskim de Orachaim dans le Bar Orachaim Siman Nun Gimel et dans le Taz Orachaim Siman Nun Aleph. Cette idée que Baruch Shehamar, c'est un papier qui est tombé du ciel. Le Ramak aussi, Rabbi Moshe Cordovero écrit, on le voit dans Sidur Tfila les Moshe, édition 1892, même à Moudalef, et il ajoute là-bas que pourquoi c'est tombé du ciel, c'est que la Shrina elle-même, elle chante Baruch Shehamar au bon Dieu. Bon, ok, donc ça c'est la source du Baruch Shehamar. Maintenant on voit quand même dans les écrits du Mabit, du Rav de Trani, dans le Beit Elokim, c'est Shar HaYesodot Perek Samech Aleph, il écrit qu'il est possible que Baruch Shehamar fut dit, ait été dit aussi à l'époque du Beit HaMikdash, qu'on le disait déjà à l'époque du Beit HaMikdash Rishon, même le premier Beit HaMikdash, parce qu'on sait que Baruch Shehamar, on l'a déjà depuis Moshe Rabbeinu. Ainsi dit-il, ainsi écrit-il. C'est étrange, alors quoi, le papier est tombé à l'époque de Moshe Rabbeinu en fait. Si déjà Moshe Rabbeinu, le bon Dieu aurait pu lui donner directement, c'est pas la peine de lui jeter le papier. C'est écrit dans la Torah, Baruch Shehamar ? C'est nouveau ça, je ne savais pas. Avec Aziachir, ah oui, non, c'est aucun rapport. Et sinon, on n'aurait pas parlé d'un pété qui tombe du ciel. Allons donc, monsieur Marek. Le Baruch Shehamar dit le Mabit qu'en fait, on l'a depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand dans le Or Zaroua qu'on a cité tout à l'heure, on ne voit pas comme ça. On voit que ce qui est écrit là-bas, c'est que c'est Anshe Knesset Agdola chez Tiknuhu, qui ont fait la Takana du Baruch Shehamar, qui l'ont instauré. Il écrit Alpi. Pitka, en se basant sur le pétek, en se basant sur le papier. Mais c'est pas depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Et plus encore, vous n'avez pas une couchée quand on vous dit qu'il y a Baruch Shehamar depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a rien qui vous dérange ? Qu'est-ce qu'on dit dans Baruch Shehamar qui colle pas du tout avec l'époque ? Il y a un anachronisme flagrant. Dans Baruch Shehamar, on dit Uveshire David Avdecha. C'est David ? Quel David ? Il n'était pas né David, on parle de Moshe Rabbeinu là. Nazé ou Beshiré David Avdecha ? Il y a déchiré David, maintenant il n'est pas né David. D'accord ? Donc ça ne marche pas. Ezemine Davar, c'est de dire que c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Les Korah, il faut dire comme ça. Pour concilier tout ça, il faut dire que. C'est gentil, merci. Il faut dire. J'entends pas bien. Il faut parler au moins aussi fort que les profs et les élèves. Je sais pas. Est-ce qu'ils priaient à l'époque de Moshe ? Oui, on l'a dit déjà que c'est une marque locale de Rishonim. Est-ce que la mitzvah de prière, c'est Minatora Midrabanan ? Et si on dit que c'est Minatora, ben nécessairement ils priaient, mais ils priaient pas selon le nosar que nous avons. N'est-ce pas ? La nosar qu'on a, c'est une takana de Anshe Knesset Agdola. Donc ça date du début du second temple. Au premier temple, il y avait les prières comme on les connaît nous. Il y avait une sorte de prière, mais chacun priait selon ses mots, comme il le sentait, comme il le voulait. Il n'y a pas un sidour de prière. Alors comment concilier tout ça ? Comment dire que c'est là depuis l'époque de Moshe Rabbeinu ? Comment ça marche cette histoire-là ? Et comment s'arranger avec Ubeshiré David Abdecha ? Et comment s'arranger avec cette idée du pétek qui tombe du ciel et c'est déjà depuis Moshe, etc., etc., etc. Ou bien c'est Anshe Knesset Agdola qui ont fait la Takana ? Il semblerait que le pétek en question ne concerne que la première partie de Baruch Shehamar. Tous les Baruch qu'il y a au début. Après il y a la Bracha. La bracha, c'est Anshe Knesset Agdola. Les barouchs du début, ça c'est le pétek en question. Et eux, ils ont reçu le pétek, ils l'ont instauré dans la tfila, et ils ont ajouté, ils ont été métaknim, cette bracha qui suit après tous les barouchs. Il y a dans le Piske Maharitz, c'est les psakim de Rabbi Yehiyat Salah, c'est un rabbin du Yémen, Il est écrit que le Petek Minashamaim de Baruch Shemar, ça veut dire quoi? Comment ça, Minashamaim? Il est tombé du ciel comme ça? Il est arrivé comme un petit avion qu'on envoie à l'école? Non. C'est quoi, ils l'ont trouvé Minashamaim? C'est qu'ils l'ont trouvé dans le Kever de Yehezkel. Ils ont trouvé ce papier dans Kever Yehezkel. Vous voyez encore une fois l'interprétation qui se rapproche de ce que je vous disais tout à l'heure, que quand on dit qu'un papier est tombé du ciel, c'est pas nécessairement tombé dans ce sens-là. Ça peut être dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé quelque part. Ok? Ils ont trouvé ce papier dans le Kever Yehezkel. Vraisemblablement, il fait allusion à, vous savez, c'est écrit dans le Drisha. Vous connaissez le commentaire du Drisha, le Prisha ou Drisha, un commentateur du Tour. C'est le Sma sur le Shulchan Aruch. Il a écrit le Drisha, Rabbi Yeshua Valk. Il a écrit le Drisha et le Prisha sur le Tour. Dans Tour Orachaim Siman Lamed Dalet, il est écrit dans le Drisha qu'il y a eu la Bima sur le Kever Yehezkel s'est effondrée un jour. Et donc le Kever a été ouvert, ça ne veut pas dire qu'il y avait les ossements ouverts, le cabolé, mais ce qu'il y a au-dessus s'est tombé. Et on a trouvé tout ce qu'on avait enterré à côté du prophète. Et là-bas, ils ont vu qu'il y avait plein de téphilines. Ils ont pris des téphilines. Souvent, les guénisotes, à l'époque, on les enterrait à côté des kivrit tzadikim. Où est-ce qu'on met un Sefer Torah qui est abîmé, qui est bousillé? Mais pas à la poubelle, chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on fait? On met à la gniza. Ok, la gniza. Mais qu'est-ce qu'on fait la gniza? On enterre tous les vieux sfarim, on enterre. On enterre où? Alors le minhag était depuis très longtemps d'enterrer à côté des kivrit tzadikim. Yavo b'makom kadosh. Voilà, on met à côté d'un tzadik. Et donc à côté des prophètes, fréquemment ils enterraient les vieux sfarim. Qu'est-ce qu'il y avait comme sfarim à l'époque? Pas les livres imprimés, c'était manuscrits toujours. Et qu'est-ce qu'il y avait par excellence qu'on écrivait le plus? Les tfilin. Et donc on a trouvé dans le Kever Yehezkel beaucoup de tfilin. Dit le Drisha, on les a ouverts, on a regardé, on a vu que c'est tfilin comme Rashi, pas comme Rabbeinu Tam. Vous savez qu'il y a une marloquette dans l'ordre des parachutes, dans quel ordre on l'écrit. Et on a trouvé comme Rashi. Une preuve archéologique comme Rashi pour le Seder de Rashi, et ça date vraisemblablement de quelques années après Yehezkel, pas des milliards d'années après. Donc c'est embêtant pour Rabbeinu Tam. Dit le Drisha, j'ai entendu au nom de mon Rav. C'est marrant, il n'a pas dit que son rave le dit, mais qu'il a entendu au nom de son rave, que c'est pas une kushia contre Rabbeinu Tam. Parce que Rabbeinu Tam pourra répondre Adéraba, au contraire, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Il dit parce que c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis à la gniza. Ils se sont trompés d'ordre, ils l'ont mis à la gniza. Comme ça qu'il se défend. Les Da'ati, ça tient pas la route. Le Brilat Kevodo, ça marche pas cette histoire. Pourquoi? Deux problèmes. Petit 1, si tu dis que la raison pour laquelle l'a mis à la gniza, c'est pour ça, hein, ça marche pour Tfilin Sheliad. Mais Tfilin Shel Roche, les parachutes sont séparés, il suffit de déplacer. Vegamar nous. Comment ça marche? Il y a quatre parachutes. Dans le Yad, c'est un seul papier. On écrit tout à la suite. Dans le Roche, c'est quatre papiers séparés. Et on les insère. Donc, dans le Roche, selon Rabbeinu Tam, on insère comme ça, selon Rashi, comme ça. Et dans le Yad, on écrit comme ça, on écrit comme ça. Donc, dans le Yad, il est fichu. D'accord, mais pourquoi tu mets le Roche aussi à la Geniza? Tu as qu'à intervertir. Vegamar nous. Et t'as réglé le problème. Deuxième problème, il y avait aussi les batim là-bas. Les batim, le cuir des tfilines. Pas que le parchemin écrit, mais la boîte en cuir noir. Pourquoi tu la mets à la gniza? Elle est keshera, il n'y a pas d'ordre dans la boîte. Récupère la boîte. Si on met une boîte à la gniza, c'est pourquoi? C'est parce que c'est des vieux tfilines qui sont abîmés. C'est pour ça qu'on met à la gniza. C'est des vieux tfilines qui appartenaient à son arrière-arrière-grand-père. Ils ont pris l'eau, ils ont pris machin, etc. Ils sont abîmés, ils sont fendus, ils sont cassés. Mais la gniza! C'est pour ça qu'on met la gniza. Sinon, on ne met pas le boîtier à la gniza. La boîte des tfilines elle-même, le cuir. On met que des parchiotes, si c'est un problème d'ordre. Donc, désolé, mais l'état à note pour sauver Rabbeinu Tam à partir de ça, je trouve ça khalash. Mais je referme cette parenthèse, c'est pas le sujet. En tout cas, donc dans le Pisquet Maharit, dit qu'on a trouvé la lettre, le Baruch Sheamar, on l'a trouvé aussi là-bas dans Kever Yehezkel, la tfila du Baruch Sheamar. Il y a dans le Sidur Rashban, du Rav Shlomo Tzvi, je crois il s'appelait Shlomo Tzvi Chik, le Rav Chik, dans Sidur Rashban, c'est Siman Lametret, il écrit que, non pas le Maharam Chik, après le Maharam Chik, c'est un autre Rav Chik, il y a plusieurs, c'est le Rav Shlomo Chik, le Rashban il s'appelle, c'est un Acharon, il écrit dans Siman Yutret, qui a beaucoup, en fait c'est quoi cette histoire de Baruch Shamar qui est un papier tombée du ciel. Il disait qu'il y avait beaucoup de brachot comme ça, Baruch ceci, Baruch cela, Baruch podeo matzil. Dit, on les retrouve dans les Gemarot, dans les Mishnayot, Povesham, il indique les endroits. Dit, il avait plein de brachot comme ça, Baruch ceci, Baruch cela. Moshe Rabbeinu Temetaken, il fallait faire 100 brachot par jour, alors on a dit, comment tu vas t'arranger? Donc, Baruch ceci, Baruch cela, comme nous on dit dans Kavé, etc., ça ajoute les brachot. Donc, quand on dit Baruch ou Baruch podeo matzil, Baruch ceci, Baruch cela, ça marche comme une bracha. Donc, il dit, il y avait plein de brachot. Il voulait pas en mettre 150. Il ne voulait pas faire une filade de Baruch Shemar sans fin. Il voulait un truc correct. Il dit on en met 10 ou 13. Apparemment, c'est en fonction des Nosraot. Nous, à Ashkenazim, en tout cas, on a 10, enfin 11, on va dire, si on compte. Il y a 11 Baruch, je ne sais pas chez les Sfaradim combien il y en a. Il y a des Girsot apparemment avec 13, Anilo Yader. Bref, ils en voulaient quelques-uns. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient le choix entre plein de Brachot. Peut-être Mea Brachot ou peut-être un peu moins. Ils ont fait quoi? Ils ont pris un panier, ils ont écrit chaque Bracha sur un papier, ils ont tout mis dans le panier, ils ont mélangé et ils ont fait le Goral. Ils ont tiré au sort. Ils ont dit, le Goral, c'est Begoral Techalek Aaretz. On a vu plus avec Yeshua Altotilaz et la Goralot avec Achan. C'est qu'apparemment, le Goral, c'est envoyé du ciel. Donc il dit, on va faire le Goral. Et les papiers qui sont tombés par le Goral, ils ont appelé ça, c'est des papiers tombés du ciel. Divezeat Kavana a dit, c'est ça la Kavana quand on dit que Baruch Shemar, c'est un papier qui est tombé du ciel, c'est que le choix des Brachot dans Baruch Shemar a été décidé par le ciel à travers ce Goral. Ainsi dit le Rashban pour expliquer l'idée. Non, c'est pas pareil chez nous. Parce que quoi, Emet est tombé du ciel. Ah, le Goral Emet Sheker, on va dire, c'est déjà moins goraleux, c'est 50-50. Non. Moi, personnellement, je n'appliquerai pas, non. Je pense pas. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça, etc. Là-bas, pour le choix des brachot, je comprends, mais si je vois pourquoi ils le font. Il y a une autre histoire de papier qui est tombée du ciel, et là aussi très très discutée. By the way, petite parenthèse, il est tard. Messieurs, regardez, je demande votre attention. Je vais aller vite. Je ne l'ai pas, apparemment. Je redemande votre attention. Je vais aller vite. Je précise un truc d'abord avant d'aller vite. Le Rashban en question est très discuté. Il y a beaucoup de rabbins qui s'opposent à lui. Le Rav Sternhell, etc., est contre. Plein, il l'aime pas ce qu'il écrit. Il est trop mechoudash, il est trop moderne, il est trop ci, il est trop ça. Avalim Kolze, c'était un grand tzadik et un talmid chacham uflager sheyé. Je referme cette petite parenthèse. Il y a un autre papier qui est supposé être tombé du ciel. C'est celui du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, hein, Rabbi Avraham Ibn Ezra, on a une histoire le concernant qui s'appelle la Igeret à Shabbat, la lettre du Shabbat. Le Shabbat a envoyé une lettre au Ibn Ezra. Vous avez entendu parler de ça déjà? Non. Alors je vous raconte l'histoire brièvement, c'est comme ça. Le Ibn Ezra était une fois en Angleterre, à Londres, en 1159. Il était à Londres, il voulait voir Big Ben, c'était pas encore construit, il dit, mince, et je suis venu pour rien. Et il voulait voir la relève de la garde, et là aussi, ah, c'est, si j'avais su, j'aurais pas venu, il a dit le Ibn Ezra, d'où la phrase qui est restée. Donc Ibn Ezra était à Londres en 1159. Et il dort la nuit, c'était Leil Shabbat, on a même la date, le 14 Tevet. Shabbat 14 Tevet 1159. Taf taf kouf yut tet. Le Ibn Ezra dort, et la nuit il rêve que vient un bonhomme, un monsieur, il vient le voir, et il lui donne une lettre. Il dit voilà une lettre qui est arrivée pour toi. Et il lui dit, Kach zot haigeret sheshalach elecha à Shabbat. Prends cette lettre, c'est Shabbat qui te l'a envoyée. Alors, il prend la lettre, il la lit, et dedans, il y a une tochacha, un reproche, sur le fait qu'il ait fait entrer chez lui, dans sa maison, dans son hôtel, là où il était, en Angleterre, des livres qui expliquent que le Shabbat commence au matin, pas au soir. Vous savez, nous on dit, quand est-ce que ça commence Shabbat? Vendredi soir, et ça finit samedi soir. Là, il y a un livre qui dit que ça commence samedi matin, et ça finit dimanche matin. 24 heures en décalé. Dis, comment tu peux tolérer qu'il y ait un tel livre chez toi, Boucha Vecherpa? Ça va entraîner du Chilul Shabbat. Les gens vont transgresser le Leil Shabbat. Dans le Rachaim Akadosh, il ramène cette histoire-là dans Vaikra, chapitre 19, verset 3. Le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, ramène cette histoire pour le Ibn Ezra. Il dit qu'il y avait à son époque un Toé, quelqu'un qui se trompait, un égaré du cerveau, du ciboulet, qui a écrit un commentaire donc sur la Torah, dans lequel il disait que le Shabbat était en décalé et qu'il commençait qu'au matin, etc., etc. Il dit que Nitgalé Hadavar, la Rav, allié des Nes, la chose a été dévoilée au Rav par l'intermédiaire d'un Nes, d'un miracle, au Rav, au Ibn Ezra, par l'intermédiaire d'un miracle. Alors certains ont compris que ce miracle, c'est qu'en fait l'Ibn Ezra a reçu cette lettre, un papier qui est tombé du ciel. Alors Zelo Mashikatouf, dans l'Ibn Ezra, quand on lit, c'est pas ce qui est écrit, c'est juste qu'il a rêvé de ça et qu'après lui-même, il a écrit ce texte de la lettre qu'il a rêvé, parce qu'on a le texte de la lettre aujourd'hui. Alors l'Ibn Ezra se réveille, Il écrit là-bas qu'il s'est retenu de brûler ses livres en plein Shabbat. Il a trouvé les livres en question, un commentaire sur la Torah qui disait cela. Il s'est retenu de les brûler pendant Shabbat. Il dit, ça, il faudrait les brûler même pendant Shabbat. Et il a attendu quand même Motsé Shabbat pour ce faire. Et voilà, et ça c'est l'histoire donc de la lettre du Ibn Ezra. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce fameux commentaire qui dirait cela, c'est quoi ? C'est le commentaire du Rashbam. Ah là, c'est embêtant. C'est le commentaire du Rashbam en question, le commentaire incriminé. Dans le commentaire du Rashbam, c'est pour ça que vous verrez dans la majeure partie des éditions de commentaires de Mikraot, Gedolot, il n'y a pas le Rashbam au début sur Bereshit. Ils ont censuré tout le début et ils ont mis que la suite. Ils ont dit voilà, ça c'est trop dangereux, on ne met pas un truc pareil. Voilà, c'est dans le premier chapitre de Bereshit, verset 5, le Rashbam écrit sur le pasuk Velachosher Kara Laila, dit le Rashbam, Leolam or tri là vers Harkar Rocher, toujours or et après Rocher. Et de là, certains en ont déduit, et peut-être le Ibn Ezra, d'abord le jour, après la nuit. Sur les 24 heures, c'est d'abord la période diurne. D'où le problème pour Shabbat, forcément. À Emet, et il y a un livre maintenant de Rav Moshe Tsouriel qui s'appelle Otsrot Rashbam, c'est page 35, il écrit, c'est un contemporain Rav Moshe Tsouriel, c'est un rabbin avec qui je suis ami, si je peux me permettre de parler comme ça, bien qu'il ait plutôt l'âge de mes parents, même plus. Non, peut-être pas plus. C'est un Rav Abnei Brak. Il écrit dans son livre Otsrot Rashbam, page 35, il ramène deux possibilités d'explication sur ce Rashbam. Comment le comprendre ? Soit, premièrement, que la kavana du Rashbam est de dire qu'avant Matan Torah, la définition de jour et nuit, ça commençait par le matin, pas par le soir. Nous, depuis Matan Torah, on considère que ça commence à partir du soir. D'accord ? Une journée commence quand ? À partir de la nuit. Mais avant Matan Torah, la journée commencerait à partir du jour. Stop, parenthèse, je ne sais pas quelle incidence, que ça change avant Matan Torah, tant qu'il n'y a pas de halakhot. Je referme la parenthèse. Il peut y avoir des incidences, mais l'honora. Il cède pour cela d'un commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui écrit dans Shemot 12.2 qu'au Beit HaMikdash, la période diurne précède la période nocturne dans le jour. Vous savez, ça c'est comme ça, pas besoin du Rav Shimshon Raphaël pour le dire. Dans les korbanot, quand il y a un korban dans la journée, on peut le manger dans la journée, et dans la nuit qui suit la nuit, est rattaché à la journée qui précède, pas comme dans l'autre sens. Donc il dit peut-être c'est comme ça avant Matan Torah, mais pas que le Rashbam souhaitait réellement changer la halakha. Deuxième proposition d'explication, dit-il, de justification du Rashbam, il dit de toute façon, on a retrouvé depuis un manuscrit, un Ktaviad de Munich, c'est le numéro 252 de la bibliothèque de Munich. C'est un commentaire du Rashbam qui est plus complet, avec des petits ajouts qui manquent dans le commentaire dont nous disposons. Et dans le commentaire du Rashbam plus complet, il est écrit plus loin, dans Bereshit, toujours chapitre Aleph, mais plus loin, verset 31, le Rashbam écrit clairement que par rapport à Shabbat, ça commence à la nuit. Il dit « Az nigmar yom hashishi ve'itrila menucha be'shabbat ba'erev » Je ne sais pas ce qu'a à Donc il dit clairement, donc c'est sûr que ce n'est pas ça son intention et c'est comme ça qu'il veut le sauver. Donc Baruch, qu'il n'a pas eu l'intention de changer la lachot de Shabbat et franchement, personnellement, je ne pense pas que le Ibn Ezra ait pu croire une telle chose. D'ailleurs, lui-même, le Rav Tsouriel, écrit là-bas que selon lui, il dit, il ne croit pas que le Ibn Ezra ait écrit le Higeret à Shabbat. Il dit, c'est un ziouf, ce n'est pas le Ibn Ezra qui a écrit le Higeret à Shabbat, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu le mettre sur son dos. Top, Razak, messieurs, il est tard. Blinéder, demain, je vous parle de la lettre de Rav Israël Ber au dessert, la lettre des nanars. C'est aussi un sujet duquel on a dit qu'il fallait en parler. On en parlera Blinéder demain. Razak, messieurs, rendez-vous demain.